Ardigan. Ardigan présente Cthulhu, le mythe. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. La maison de la sorcière. Si c'était les rêves qui avaient engendré la fièvre, ou bien la fièvre qui avait engendré les rêves, Walter Gilman l'ignorait. Il ressentait seulement, tapis dans l'ombre, l'horreur purulente et glacée de l'ancienne cité et de cette insalubre, cette maudite mansarde, où il écrivait et étudiait avec acharnement, aux prises avec ses chiffres et ses formules, quand il ne s'agitait pas nerveusement sur son étroit lit de fer. Il avait développé une sensibilité auditive presque surnaturelle, à tel point que le moindre bruit lui était devenu intolérable, et qu'il lui avait fallu arrêter la pendule bon marché posée sur sa cheminée, dont le tic-tac tonnait pour lui comme une salve d'artillerie. La nuit, les vibrations lointaines de la ville obscure, les affreuses cavalcades des rats derrière les cloisons vermoulues et les craquements des invisibles poutrelles de cette maison séculaire suffisaient à déchaîner à ses oreilles un tumulte strident. Les ténèbres grouillaient chaque soir d'inexplicables bruissements, et pourtant il tremblait parfois à l'idée que ces sons puissent s'estomper pour en révéler d'autres, plus étouffés et plus menaçants. Il vivait dans l'immuable cité d'Arkham, aux ténèbres légendaires, et dont les enchevêtrements croulants de toits en bâtière ployaient par-dessus ces combles où les sorcières se terraient pour échapper aux hommes du roi, lors des premières et sombres heures de cette province. Et dans toute la ville, aucun lieu n'était de plus sinistre mémoire que cette chambre de bonne où il logeait, car c'était dans cette même pièce, de cette même maison, qu'avait vécu la vieille Kezia Masson, dont la spectaculaire évasion de la prison de Salem restait encore à ce jour inexpliquée. Cela s'était passé en 1692. Le geôlier avait sombré dans la folie et balbutié qu'une bête velue au croc blanc s'était échappée en trombe de la cellule de Kezia. Et Cotton Mather, lui-même, n'avait pu déchiffrer les courbes et les angles tracés à l'aide d'un fluide rouge et visqueux sur les parois de pierre grise. Gilman aurait sans doute gagné à travailler moins dur. Le calcul non euclidien comme la physique quantique sont suffisamment complexes pour pousser à bout n'importe quel cerveau. Mais celui qui y ajoute le folklore et s'efforce d'intégrer à une cartographie de réalités multiples les évocations morbides des contes gothiques ou les récits qu'on ne murmure qu'au coin du feu, s'expose presque délibérément à souffrir de tensions nerveuses. Gilman venait de Haverhill, mais ce fut seulement après son inscription à l'université d'Arkham qu'il eut l'idée d'associer les mathématiques aux fantastiques arcanes de la magie primitive. Il y avait dans l'air de cette ville ancestrale quelque chose qui exerçait une influence obscure sur son imagination. Les professeurs de Miskatonic lui avaient vivement conseillé de lever le pied, et certains avaient même volontairement réduit sa charge de travail. En outre, il l'avait empêché de consulter les anciens ouvrages à la réputation sulfureuse, dédiés au savoir interdit qu'on gardait sous clé dans un coffre-fort de la bibliothèque de l'université. Mais toutes ces bonnes intentions arrivaient un peu tard, car Gilman avait déjà, dans les pages de l'effroyable Necronomicon d'Abdul Al-Azred, du fragmentaire Livre des Bonnes et de l'hérétique Unosh Preschlichen Kulten de Van Junz, trouver certaines notions qui concordaient avec ces équations abstraites sur les propriétés de l'espace et les rapports entre dimensions connues et inconnues. Il savait que sa chambre se trouvait dans la vieille maison de la sorcière. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il l'avait choisie. Les archives du comté d'Essex abondaient de références au procès de Kezia Masson, et ce qu'elle avait avoué sous la contrainte de l'expéditive cour de justice avait fasciné Gilman au-delà de toute raison. Elle avait évoqué devant le juge à Thorne des lignes et des courbes capables d'ouvrir des accès menant, à travers les barrières de l'espace, à d'autres plans d'existence, et laissé entendre qu'on avait souvent recours à de telles lignes et de telles courbes lors de certaines assemblées nocturnes tenues dans la sombre vallée de la pierre blanche qui s'étend derrière Meadow Hill et sur l'île déserte de la rivière. Elle avait aussi parlé de l'homme noir, du serment qu'elle avait prononcé et de son nouveau nom secret, Naba. Puis, après avoir dessiné cet étrange agencement géométrique sur les murs de sa cellule, elle avait disparu. Gilman entretenait d'étranges croyances sur Kezia, et son émotion fut grande lorsqu'il apprit que sa demeure était encore debout, plus de 235 ans après. Et quand il découvrit qu'Arkham bruissait de rumeurs au sujet de la présence persistante de Kezia dans la vieille maison et les ruelles environnantes, d'irrégulières marques de morsures découvertes sur certains dormeurs du bâtiment ou de ses voisins, de cris d'enfants entendus aux alentours du 1er mai ou de la Toussaint, de la puanteur qui régnait souvent dans le grenier peu après ces dates fatidiques, ou de la petite créature poilue au croc pointu qui hantait la bâtisse délabrée et venait renifler avec curiosité les résidents aux heures noires qui précèdent l'aube. Walter Gilman résolut d'y emménager à n'importe quel prix. Il n'eut aucun mal à y décrocher une chambre. La maison avait si mauvaise réputation qu'elle décourageait les locataires et n'accueillait plus depuis longtemps que les plus désargentés. Gilman n'aurait pu dire exactement ce qu'il espérait y trouver. Il savait seulement qu'il voulait habiter l'endroit où, dans des circonstances inconnues et plus ou moins soudaines, une banale vieille femme du XVIIe siècle avait opéré une percée mathématique dont l'ampleur dépassait peut-être les plus modernes spéculations de Planck, Heisenberg, Einstein et de Sitter. Il examina la charpente et les murs de plâtre dans tous les endroits accessibles, à la recherche de motifs énigmatiques derrière le papier peint collé, et parvint en moins d'une semaine à obtenir la mansarde orientée vers l'est, celle-là même où, à en croire les rumeurs, Kezia élaborait ses sortilèges. Cette chambre était inoccupée au moment de son arrivée, car personne n'y tenait bien longtemps, de sorte que le propriétaire, un Polonais, n'osait plus guère la proposer à la location. Pourtant, il n'arriva absolument rien à Gilman avant que les fièvres s'emparent de lui. Pas une fois, le spectre de Kezia ne flotta dans les couloirs sombres ou les chambres. Aucun animal à fourrure ne se glissa dans son antre lugubre pour le renifler, et il ne découvrit pas la moindre trace d'incantation au cours de ses incessantes recherches. Il s'enfonçait parfois dans d'obscurs lacis de ruelles dépavées ou relents de moisies, entre les murs délabrés d'inquiétantes maisons brunes sans âge, dont les fenêtres étroites aux petits carreaux semblaient poser sur lui un regard narquois. D'étranges faits s'étaient déroulés ici, il le savait, et la signature étouffée de ces événements affleurait à la surface des choses. Du moins dans les venelles les plus sombres, les plus étroites et les plus tortueuses, comme ravivées depuis les profondeurs d'un passé monstrueux encore vivace. Par deux fois, il se rendit en canot sur l'île de sinistre renommée au milieu de la rivière, afin de dresser un croquis des angles étranges que décrivaient ces rangées grises et moussues de pierres levées, dont les origines mystérieuses se perdaient dans la nuit des temps. La chambre de Gilman était plutôt grande, mais de forme curieusement irrégulière. Le mur nord penchait nettement vers l'intérieur de la pièce, tout comme le plafond bas s'inclinait légèrement dans la même direction. En dehors d'un trou de souris évident et des traces d'autres trous manifestement bouchés, il n'existait aucun accès, ni le moindre indice prouvant qu'il y en avait eu un auparavant, vers l'espace qui devait ainsi exister entre la paroi oblique et le pan nord bien vertical de la maison, malgré la fenêtre condamnée de longue date qui creusait la façade quand on la regardait de l'extérieur. Le grenier au-dessus, dont le plancher devait être logiquement incliné, était également inaccessible. Quand Gilman, à l'aide d'une échelle, se hissa dans la section horizontale du grenier, envahi de toiles d'araignées, il découvrit les contours d'un ancien accès hermétiquement fermé par de lourdes et vieilles planches, maintenu en place par ses épaisses chevilles de bois propres aux charpentes coloniales. Il avait beau déployer des trésors de persuasion, le propriétaire entêté refusait obstinément de le laisser explorer ces deux interstices condamnés. Au fil du temps, il développa une véritable fascination pour l'aberrante disposition du mur et du plafond de sa chambre. Il commençait même à déceler dans leurs angles étranges un agencement mathématique Il semblait offrir quelque indice quant à l'utilité de cette architecture. La vieille Kezia, songeait-il, avait sans doute eu d'excellentes raisons d'habiter une pièce dotée d'angles aussi atypiques. Car n'était-ce pas grâce aux angles qu'elle prétendait s'affranchir des limitations de notre monde et de l'espace tel que nous les connaissons? Peu à peu, l'intérêt de Gilman se détourna des intervalles inaccessibles situés derrière les parois inclinées, puisqu'il devenait évident qu'il fallait chercher la raison d'être de ces surfaces de son côté des murs. Et c'est au début du mois de février que débutèrent les rêves et les signes de fièvre cérébrale. Depuis quelque temps, les angles insensés de la pièce semblaient avoir sur Gilman un effet étrange, presque hypnotique. Et plus l'hiver maussade avançait, plus il se surprenait à contempler avec une intensité croissante le coin formé par le plafond déclinant et le mur oblique. Au cours de cette période, son incapacité à se concentrer sur ses études l'inquiéta considérablement, et son appréhension s'aggrava encore à l'approche des premiers examens. L'hypersensibilité récente de son ouïe n'arrangeait rien. Une perpétuelle et presque insupportable cacophonie empoisonnait son existence. En outre, il avait constamment cette impression terrifiante que les sons autres, peut-être issus de régions étrangères à la vie, palpitaient sous le seuil de son audition. Quant aux bruits les plus concrets, ceux des rats dans les cloisons vétustes étaient de loin les pires. Leur grattement furtif semblait parfois délibéré. Lorsqu'il provenait de la paroi inclinée au nord de la chambre, il s'y mêlait une sorte d'âpre cliquetis. Et lorsqu'il résonnait dans la soupente depuis longtemps condamnée qui surplombait le plafond oblique, Gilman restait pétrifié, persuadé que quelque abomination attendait son heure pour s'abattre sur lui et l'engloutir à jamais. Les rêves, quant à eux, témoignaient d'une démence sans nom, que Gilman attribuait à l'étude conjointe des mathématiques et du folklore. Il était obsédé par ces régions nébuleuses dont ses équations ébauchaient les contours par-delà les trois dimensions connues, et par l'hypothèse que la vieille Kezia Masson, sous l'égide d'une mystérieuse influence, ait pu découvrir le chemin de ces contrées. Les archives jaunies du comté dans lesquelles il avait trouvé son témoignage et celui de ses accusateurs révélait des maléfices dont l'ampleur excédait largement l'humaine expérience. De même, les descriptions de la petite créature furtive et poilue qui lui servait de familier étaient empreintes d'un réalisme presque douloureux, en dépit de leurs détails improbables. Cette créature, pas plus grosse qu'un rat de bonne taille, est bizarrement nommée Brown Jenkin par le peuple d'Arkham, semblait être le fruit d'un remarquable accès d'hallucination collective, car en 1692, pas moins de 11 personnes affirmaient l'avoir vue. Des rumeurs plus récentes, dont l'unanimité était parfaitement troublante, couraient également sur son compte. D'après les témoins, il s'agissait d'un rat à l'épaisse fourrure, mais affublé d'une tête barbue au croc pointu, d'apparence diaboliquement humaine, et de pattes ressemblant à des petites mains d'homme. Il servait de messager entre Kezia et le diable, et se nourrissait du sang de la sorcière qu'il suçait tel un vampire. Sa voix était un ignoble ricanement, et il savait parler toutes les langues. De toutes les grotesques monstruosités qui peuplaient les songes de Gilman, aucune ne lui inspirait plus d'horreur et de dégoût que ce blasphématoire et hybride homoncule qui revêtait sous ses paupières closes une apparence mille fois plus odieuse que les anciennes archives et la rumeur des temps présents n'avait pu lui suggérer à l'état de veille. La plupart du temps, Gilman rêvait qu'il plongeait au fond d'abîmes infinis, au crépuscule teinté d'impossibles couleurs et d'un chaos troublant de sons effrénés, d'abîmes dont les propriétés physiques et gravitationnelles, tout comme leur influence sur son propre corps, le laissaient pantois. Il ne marchait ni ne grimpait, ne volait ni ne nageait, ne rampait ni ne glissait, et pourtant il faisait toujours l'expérience d'une faculté de déplacement en partie intentionnelle, en partie imposée. Il lui était difficile d'évaluer sa propre physionomie, car la vue de ses bras, de ses jambes et de son torse lui était toujours occultée par quelques perspectives faussées. Mais il pressentait que la répartition de ses membres et de ses facultés physiques faisait l'objet d'une fabuleuse métaphore et d'une projection oblique. qui ne s'affranchissait pas pour autant d'un certain rapport grotesque avec ses proportions et ses propriétés normales. Les abîmes n'étaient aucunement dépeuplés, mais grouillaient d'indescriptibles masses angulaires couvertes d'une substance aux nuances sans pareille. Parmi elles, certaines semblaient organiques et d'autres inorganiques. Quelques-uns de ces organismes éveillaient parfois tout au fond de son esprit de vagues souvenirs, sans qu'il puisse se rappeler consciemment ce que ces êtres semblaient suggérer ou parodier de grotesques manières. Au cours des rêves plus tardifs, il parvint à distinguer différentes catégories au sein desquelles ces entités organiques semblaient se répartir, et chacune impliquant une famille d'organismes aux déplacements légèrement moins absurdes et incohérents. Ces entités, les organiques comme les autres, échappaient à toute tentative de description ou de compréhension. Gilman comparait parfois les masses inorganiques à des prismes, des labyrinthes, des grappes de cubes et de plans ou encore des édifices cyclopéens. Les créatures organiques, pour leur part, lui apparaissaient dans toute leur diversité comme des amas de bulles, des pieuvres, des mille-pattes, des idoles hindoues ayant pris vie et des réseaux d'arabesques animés de glissements sinueux. Tout ce qu'il voyait était indiciblement horrible et menaçant, et chaque fois que les fluctuations d'une des masses organiques semblaient indiquer qu'elle avait relevé sa présence, il était saisi d'un effroi si brutal et abominable qu'il s'éveillait en sursaut. La nature des mouvements de ces organismes lui était aussi incompréhensible que ses propres déplacements. Au fil des rêves, il constata un nouveau mystère. Certaines entités avaient tendance à surgir brusquement du vide, ou bien à y retourner tout aussi soudainement. La clameur rugissante et hurlante qui saturait ces abîmes défiait toute analyse en termes de tonalité, de timbre ou de rythme, mais semblait synchroniser avec les vagues d'altérations visuelles diffuses qui traversaient chaque objet, fût-il organique ou inorganique. Gilman redoutait constamment que cette cacophonie atteigne quelque intolérable degré d'intensité au cours de l'une ou l'autre de ces incessantes, mystérieuses et inévitables variations. Mais ce n'était pas dans ces maelstroms d'absolue étrangeté qu'il voyait Brown Jenkins. Le révoltant petit monstre n'apparaissait que lors de rêves plus vifs et plus nets. Il assaillait juste avant qu'il sombre dans les profondeurs du sommeil. Dans ces cas-là, il était allongé dans le noir, luttant pour rester éveillé, quand une faible lueur chatoyante se mettait à miroiter dans cette pièce séculaire, baignant d'une brume violette l'angle des deux plans inclinés qui s'étaient insidieusement emparés de son esprit. La créature surgissait alors du trou creusé dans la plinthe à l'angle de la pièce et trottinait vers lui sur le plancher aux larges lattes affaissées, sa minuscule face humaine et barbue empreinte d'une impatience malveillante. Mais heureusement, ce rêve se dissipait toujours avant que cette chose aux longues canines acérées approche suffisamment pour le flairer. Gilman s'efforçait chaque jour de boucher le trou, mais la nuit, les véritables locataires des cloisons venaient ronger sa barricade, quelle qu'elle fût. Il avait une fois demandé au propriétaire de clouer là une plaque métallique, mais à la faveur de la nuit. Les rats avaient creusé un nouveau trou dans les plinthes, devant lequel ils avaient poussé ou traîné un curieux petit fragment d'os. Gilman ne mentionna pas sa fièvre au médecin, car il savait pertinemment qu'il ne pourrait passer ses examens si on l'envoyait à l'infirmerie de l'université, quand chaque seconde de son temps devait être consacrée aux révisions. En l'état, il échoua en calcul différentiel et en psychologie générale avancée, sans pour autant perdre espoir de rattraper sa moyenne avant la fin du trimestre. Ce fut en mars qu'un nouvel événement vint s'intégrer au rêve plus vif de sa première phase de sommeil, et que la forme cauchemardesque de Brown Jenkins fut désormais accompagnée d'une tache nébuleuse qui se précisa peu à peu jusqu'à former la silhouette d'une vieille femme voûtée. Cette présence supplémentaire le perturba bien plus qu'il n'aurait su dire, mais il finit par se convaincre qu'il devait s'agir de cette vieille bique qu'il avait croisée par deux fois dans l'obscur dédale de ruelles qui bordent les quais désaffectés. À chaque rencontre, le regard fixe, venimeux, sardonique, et apparemment gratuit de cette vipère l'avait presque fait frissonner. Surtout la première nuit où, à la vue d'un énorme rat qui avait filé le long des pavés d'une entrée de ruelle plongée dans l'ombre, il avait absurdement songé à Brown Jenkins. C'était ses frayeurs nerveuses, pensait-il, qui trouvaient à présent écho dans ses rêves échevelés. Que l'influence de la vieille maison fût néfaste, il ne pouvait le nier. Mais des vestiges de son engouement morbide des premiers jours l'y retenaient. Il présumait que seule la fièvre était responsable de ses fantasmagories nocturnes. Une fois la crise passée, il serait sûrement libéré de ses monstrueuses visions. Ces dernières s'avéraient toutefois criantes de vérité et abominablement convaincantes, et il s'éveillait toujours avec l'impression fugitive d'avoir enduré plus de choses qu'il ne pouvait s'en rappeler. Il était atrocement persuadé d'avoir, au cours de fragments de rêves oubliés, parlé avec Brown Jenkins et la vieille femme, qu'il l'avait pressé de les suivre pour aller rencontrer un troisième être plus puissant encore. Vers la fin du mois de mars, il redoubla d'efforts en mathématiques, au détriment des autres matières qui l'ennuyaient de plus en plus. Il s'était découvert un don inné pour la résolution des équations riemanniennes et avait ébloui le professeur Upham par sa compréhension de la quatrième dimension ou d'autres sujets qui laissaient sans voix le reste de la classe. Un après-midi, un débat fut tenu sur le thème des potentielles courbures anormales de l'espace et des hypothétiques points d'approche, ou même de contact, entre notre section du cosmos et d'autres régions aussi éloignées que les plus lointaines étoiles ou les gouffres intergalactiques eux-mêmes, ou bien aussi prodigieusement reculés que les moins intelligibles des unités cosmiques qui sous-tendent le continuum espace-temps du modèle d'Einstein. La façon dont Gilman aborda ce sujet lui valut l'admiration de tous. Mais les hypothèses qu'il souleva alimentèrent un peu plus les rumeurs déjà nombreuses sur sa nature excentrique, solitaire et nerveuse. Les étudiants ne manquèrent pas de secouer la tête devant le sérieux avec lequel il accéda sa théorie selon laquelle un homme, s'il disposait de connaissances mathématiques excédant par ailleurs la portée de l'esprit humain, pourrait délibérément quitter la Terre pour rejoindre une infinité d'autres corps célestes selon leur position précise dans la trame cosmique. Un tel déplacement, disait-il, n'impliquait au fond que deux éléments. Tout d'abord, un vecteur de sortie de la sphère tridimensionnelle dans laquelle nous évoluons, puis un vecteur d'entrée pour regagner cette même sphère en un autre lieu, peut-être situé à une distance infinie. Qu'on puisse survivre à ce voyage était en outre parfaitement concevable. Tout être d'un espace à trois dimensions devait probablement pouvoir séjourner dans la quatrième, et seul l'environnement étranger qu'il aurait choisi pour ce retour dans la sphère tridimensionnelle risquerait de le mettre en péril. Des habitants de certaines planètes pourraient ainsi en occuper d'autres, et pourquoi pas d'autres galaxies, ou même d'autres continuums espace-temps dotés d'échelles dimensionnelles équivalentes aux nôtres, bien qu'il existât de toute évidence une quantité littéralement astronomique de corps célestes hostiles à toute forme de vie, en dépit de leur proximité géographique ou mathématique. Il était également fort possible que les habitants d'un ensemble dimensionnel donné puissent survivre à une entrée dans d'autres ensembles, pour le moment inconnus et incompréhensibles, qui comporteraient une progression exponentielle de dimensions nouvelles, fussent-elles circonscrites ou non au continuum espace-temps donné, et que le contraire serait également vrai. Il y avait là matière à conjecture, mais il était quasiment certain que le type de mutation impliqué par un passage d'un quelconque plan dimensionnel au plan immédiatement supérieur ne saurait porter atteinte à l'intégrité biologique du voyageur, du moins telle que nous la comprenons. Gilman n'était pas très clair quant au raisonnement qui le poussait à émettre cette dernière hypothèse, mais son imprécision sur ce point fut largement compensée par sa clarté sur d'autres problèmes éminemment complexes. Le professeur Upham apprécia tout particulièrement sa démonstration de la parenté entre les mathématiques avancées et certains aspects de la tradition magique, transmise à travers les âges depuis une ineffable antiquité, humaine ou préhumaine, dont les connaissances du cosmos et de ses lois surpassaient de loin les nôtres. À l'approche du 1er avril, Gilman constata avec inquiétude que sa fièvre lancinante n'était pas retombée, Son trouble augmenta encore quand certains des autres locataires lui signalèrent ses fréquentes crises de somnambulisme. Il restait peu dans son lit, lui apprit-on, et les craquements du plancher de sa chambre à certaines heures de la nuit n'avaient pas échappé à son voisin du dessous. Ce dernier disait également entendre des talons de chaussures claquer contre le parquet. Mais il devait se méprendre, car Gilman retrouvait chaque matin ses souliers, comme tous ses autres vêtements, précisément où il les avait posés la veille. De toute évidence, nul dans cette vieille et lugubre demeure n'était épargné par les hallucinations auditives. Car Gilman lui-même n'avait-il pas nettement entendu, même en plein jour, d'autres bruits que les grattements des rats dans ces noirs interstices situés derrière le mur et le plafond incliné. Son ouïe, désormais sensible à l'extrême, se mettait à percevoir des bruits de pas étouffés et dans la soupente de tout temps condamné, et cette illusion s'avérait parfois terrifiante de réalisme. Cependant, force lui fut de constater qu'il était en effet devenu somnambule, car à deux reprises on avait trouvé sa chambre vide en pleine nuit, même si sa garde-robe était restée intacte. Ce fait lui fut rapporté par Frank Elwood, le seul de ses condisciples que la misère obligeait à loger lui aussi dans cette maison sordide de sinistre renommée. Elwood, déjà à pied d'œuvre au petit matin, était monté lui demander conseil pour une équation différentielle, mais avait trouvé sa chambre vide. Après avoir frappé sans obtenir de réponse, il avait sans doute présomptueusement estimé que son camarade, dont il avait désespérément besoin pour l'aider, ne lui en voudrait pas de le secouer doucement pour le réveiller, et il avait en conséquence poussé la porte non verrouillée. À chacune de ces occasions, cependant, il avait trouvé Gilman absent. Et quand on lui rapporta ces incidents, ce dernier se demanda où il avait bien pu aller, pieds nus et vêtu de sa seule chemise de nuit. Il résolut, si on l'informait de nouvelles crises de somnambulisme, de se pencher sur la question et de répandre de la farine sur le sol du couloir pour voir où ses pas pouvaient bien le mener. La porte était la seule issue envisageable, car l'étroite fenêtre ne donnait que sur le vide. Au cours du mois d'avril, son oreille aiguisée par la fièvre fut troublée par les prières geignardes d'un repiqueur de métier à tisser superstitieux dénommé Joe Mazurevitch, qui logeait au rez-de-chaussée. Mazurevitch divaguait constamment à propos du fantôme de la vieille Kezia et de son familier velu au croc acéré et à la truffe inquisitrice, qui le harcelait tant et si bien que seul son crucifix d'argent, donné en guise de protection par le père Ivaniki de l'église Saint-Stanislas, lui offrait quelque répit. À présent, il priait parce qu'approchait le temps du sabbat des sorcières. La veille du 1er mai était en réalité la nuit de Valpurgis. Il voyait les plus noirs démons de l'enfer arpenter la terre et tous les suppôts de Satan communier dans le sang au cours d'indicibles crimes rituels. Il se passait toujours d'affreuses choses à Arkham à cette occasion. Quand bien même les nantis de Miskatonic Avenue ou de High et Stalton Street prétendaient n'en rien savoir. D'ignobles forfaits seraient commis, et la disparition d'un ou deux enfants était probablement à prévoir. Joe tenait ses histoires de sa grand-mère restée au pays, qui elle-même les tenait de sa propre grand-mère. Mieux valait prier et égrener son chapelet à cette période. Depuis 3 mois, Kezia et Brown Jenkins s'étaient tenus à l'écart de sa chambre, de celle de Poi Shoinsky et de toutes les autres, et une telle absence ne présageait jamais rien de bon. À tous les coups, il manigançait quelque chose. Le 16 avril, Gilman se rendit chez le médecin et fut surpris d'apprendre que sa température était bien moins élevée qu'il l'avait craint. Après l'avoir longuement questionné, le docteur l'orienta vers un neurologue. À la réflexion, Gilman se félicita de n'avoir pas consulté le médecin de l'université qui était bien plus inquisiteur encore. Le vieux Waldron, qui par le passé avait déjà tenté de tempérer ses efforts, lui aurait sûrement imposé une longue période de repos, chose impossible quand ses équations lui promettaient d'imminents et prodigieux résultats. Il était sur le point de découvrir la frontière entre l'univers connu et la quatrième dimension, et qui pouvait dire jusqu'où il pourrait aller. Mais tout en nourrissant ses pensées, il se demandait d'où lui venait cette étrange assurance. Ce redoutable sentiment de toucher au but découlait-il seulement des feuillets qu'il noircissait de formules jour après jour? Les bruits de pas furtifs, assourdis et imaginaires de la soupente condamnée jouaient assurément sur ses nerfs. En outre, il avait de plus en plus souvent l'impression que quelqu'un tentait de le pousser à commettre un acte dont il ne se sentait pas capable. Et que dire de son somnambulisme? Où se rendait-il ainsi certaines nuits? Et qu'était donc cette imperceptible rumeur qui semblait parfois filtrer à travers le tumulte exaspérant des bruits de la vie quotidienne, même en plein jour, alors qu'il était parfaitement éveillé? Son rythme ne correspondait à rien qui existât sur cette terre, sinon peut-être à la cadence rituelle d'une litanie du sabbat, et il craignait parfois qu'elle partage certaines caractéristiques avec les hurlements et les grondements indistincts qui résonnaient dans les abîmes d'absolue étrangeté de ses rêves. Ceci, entre-temps, avait gagné en atrocité. L'abominable silhouette de la vieille femme qui hantait sa phase de sommeil léger était désormais d'une précision infernale, et Gilman savait que c'était bien elle qui l'avait tant effrayé dans les bas quartiers. Impossible de se méprendre sur ce dos voûté, ce long nez et ce menton flétri. Il ne se souvenait que trop bien de ses informes défroques brunes. Son visage arborait un mélange de malignité et d'exultation parfaitement répugnant, et sa voix grinçante, aux accents autoritaires et menaçants, résonnait encore dans les oreilles de Gilman à son réveil. Il devait rencontrer l'homme noir, coassait-elle, et les accompagner tous trois devant le trône d'Azathoth au cœur du chaos primordial. Voilà ce qu'elle avait dit. Il lui faudrait signer de son propre sang le livre d'Azathoth et adopter un nom secret, à présent que ses recherches solitaires étaient allées si loin. La seule chose qui le retenait d'accompagner la sorcière Brand Jenkins et le troisième personnage devant le trône du chaos, où des flûtes où son grêle jouait d'absurdes trilles, c'était qu'il avait déjà croisé le mot Azathoth dans le Necronomicon, et que celui-ci désignait un mal primordial si épouvantable qu'il défiait toute description. La vieille femme se matérialisait toujours dans le vide près de l'angle formé par la pente du plafond et l'inclinaison du mur. Elle semblait se cristalliser autour d'un point plus éloigné du sol que du haut de la pièce, et chaque nuit elle se rapprochait et devenait plus précise avant que le rêve bascule dans les abîmes. Brown Jenkins se rapprochait au fur et à mesure lui aussi, et ses crocs d'un blanc jaunâtre scintillaient affreusement dans cette surnaturelle phosphorescence violette. L'écho de son odieux petit ricanement strident avait fini par hanter Gilman. Il se rappelait encore au réveil comment il avait prononcé les mots « Azathoth » et « Nyarlathotep ». Les rêves du sommeil profond se faisaient également plus précis. Et Gilman eut l'intuition que les abîmes crépusculaires qui l'environnaient étaient ceux de la quatrième dimension. Ces entités organiques, dont les mouvements lui paraissaient moins aléatoires et gratuits qu'auparavant, étaient probablement des projections de formes de vie présentes sur notre propre planète, y compris celle d'êtres humains. Quant aux autres, il n'osait songer aux formes qu'elles revêtaient dans leurs sphères dimensionnelles respectives. Deux des objets au déplacement les moins étranges, un agrégat de bulles oblongues et iridescentes d'assez bonne taille, et un polyèdre bien plus petit, aux couleurs inconnues et aux angles parcourus d'incessantes reconfigurations, semblait l'avoir remarqué et le suivait ou flottait devant lui, tandis qu'il évoluait entre les prismes titanesques, les labyrinthes, les simili-bâtiments ou les amas de cubes et de plans. Et tout du long, les hurlements et les cris des abîmes enflaient sans relâche, comme pour atteindre un monstrueux paroxysme d'une insupportable intensité. Dans la nuit du 19 au 20 avril, un nouvel événement survint. Gilman, à demi-mètre de ses mouvements, se déplaçait au sein des abîmes de ténèbres dans le sillage de l'agrégat de bulles et du polyèdre, quand il remarqua les angles étrangement réguliers formés par les arêtes d'une gigantesque structure prismatique voisine. En un éclair, il fut projeté hors de l'abîme et se retrouva à trembler sur un versant de colline rocailleux baigné d'une intense lumière verte diffractée. pieds nus et vêtu de sa seule chemise de nuit, il découvrit, quand il voulut marcher, qu'il pouvait à peine soulever ses jambes. Une brume tournoyante l'empêchait de voir au-delà du terrain en pente, et il s'efforça de ne pas penser au son qui pourrait surgir de cette nappe vaporeuse. C'est alors qu'il aperçut les deux silhouettes qui laborieusement rampaient vers lui, la vieille femme et la petite créature poilue. La sorcière se mit à genoux à grand-peine et parvint à croiser les bras d'une façon étrange, tandis que Brown Jenkins désignait une direction à l'aide d'une patte affreusement anthropoïde. Il soulevait au prix d'immenses efforts. Mû par une volonté étrangère à la sienne, Gilman se traîna vers l'endroit indiqué par l'angle des bras de la sorcière et la patte minuscule du monstre, et avant d'avoir fait trois pas, il était de retour dans les abîmes crépusculaires. Sa chute reprit, vertigineuse, interminable, parmi les nuées grouillantes de formes géométriques. C'est seulement bien plus tard qu'il s'éveilla dans son lit, de retour dans la mansarde aux angles déments de cette vieille demeure maléfique. Il n'était bon à rien ce matin-là, et préféra manquer les cours. Ses yeux, comme sous l'effet d'un magnétisme inconnu, ne lui obéissaient plus et revenaient invariablement se poser sur un point précis du plancher. Au fil des heures, le foyer de convergence de son regard aveugle se déplaça, et c'est seulement vers midi qu'il parvint à s'arracher à la contemplation du vide. Il sortit déjeuner à 14 heures, mais à mesure qu'il arpentait les ruelles étroites de la ville, il se surprit à tourner constamment en direction du sud-est. Seul un terrible effort de volonté lui permit de s'arrêter dans une cafétéria de Church Street. Après le repas, cependant, l'irrésistible force d'attraction s'empara de lui à nouveau, plus puissante que jamais. À l'évidence, il allait devoir consulter un neurologue, car cette étrange compulsion avait peut-être un rapport avec son somnambulisme. D'ici là, il lui revenait de lutter seul contre ce morbide envoûtement. Il pouvait échapper à son emprise, il en était persuadé. Pour le prouver, il résolut de remonter ce courant invisible et s'achemina péniblement vers le nord le long de Garrison Street. Une sueur glacée baignait son corps quand il atteignit enfin le pont de la rivière Miskatonic. Il se retint au garde-fou le temps de contempler en amont l'île Honey, dont les alignements ancestraux de pierres levées méditaient sombrement sous le soleil d'après-midi. C'est alors qu'il sursauta, car il distinguait nettement la silhouette d'un être vivant sur cette île déserte, et un second coup d'œil lui apprit qu'il s'agissait certainement de la mystérieuse vieille femme dont l'apparence sinistre pénétrait si atrocement ses rêves. Autour d'elle, les hautes herbes frémissaient, comme si quelque animal rampait contre le sol. Quand la vieille tourna lentement les yeux vers lui, il s'enfuit du pont à toute hâte et courut se réfugier dans le dédale du quartier des quais. Malgré la distance qu'il venait de mettre entre l'île et lui, Gilman redoutait encore le mal invincible et monstrueux qui couvait dans le regard sardonique de cette créature centenaire, au dos voûté, aux hardes brunes. La force qui le poussait vers le sud-est n'avait pas disparu, et seule une résolution farouche lui permit de se traîner jusqu'à la vieille maison et d'en monter les marches branlantes. Pendant des heures, il resta assis en silence, sans rien faire, sinon laisser ses yeux dériver peu à peu vers l'ouest. À 18 heures, son oreille affûtée perçut les prières gémissantes de Joe Mazurevitch aux deux étages plus bas. Alors, en désespoir de cause, il attrapa son chapeau et replongea dans les rues dorées par le soleil couchant, sans plus tenter de résister au fil invisible qui l'attirait désormais plein sud. Une heure plus tard, la nuit le surprit au beau milieu des vastes prés qui s'étendent derrière Hangman Brooks, et sous l'éclat scintillant d'étoiles printanières. L'incoercible force exigeait désormais qu'il s'envole vers l'espace en un bond fantastique, et Gilman comprit soudain d'où provenait cet étrange magnétisme qui guidait ses pas. Cela venait du ciel. Un point précis au milieu des étoiles exerçait sur lui quelque influence et le convoquait. Il s'agissait apparemment d'un endroit situé quelque part entre Hydra et la constellation d'Argonavis. Un endroit, comprit-il, qu'il tentait inconsciemment de rejoindre depuis son réveil peu après l'aube. Dans la matinée, ce point se trouvait sous ses pieds, L'après-midi, il s'élevait vers le sud-est, puis vers le sud, avant de virer à présent vers l'ouest. Que pouvait bien signifier ce nouveau prodige? Était-il en train de perdre l'esprit? Combien de temps cela durerait-il? Rassemblant à nouveau toute sa volonté, Gilman fit demi-tour et regagna laborieusement la vieille maison lugubre. À son retour, il trouva Mazurevitch devant la porte. L'homme l'attendait, semblait-il, pour lui révéler dans un murmure aussi fébrile qu'angoissé un nouvel élément de superstition. Il s'agissait cette fois-ci de l'éclat sorcier. Joe, parti commémorer la journée des patriotes du Massachusetts la veille au soir, était rentré après minuit. En contemplant la maison depuis la rue, il avait d'abord cru la fenêtre de Gilman plongée dans l'ombre, mais il avait fini par apercevoir une faible lueur violette à l'intérieur. Il voulait mettre en garde le gentleman, car tout le monde à Arkham savait qu'il s'agissait de l'éclat sorcier de Kezia Masson, et qu'il annonçait la présence de Brown Jenkins et du fantôme de la vieille sorcière elle-même. Il n'en avait jamais parlé jusqu'ici, mais il le fallait maintenant, car cette lueur signifiait que Kezia et son familier au long croc hantaient le jeune homme. Il arrivait parfois que Paul Choinski, le propriétaire d'Obrovski et lui-même, croit voir cette lumière filtrée par les fentes de la soupente condamnée au-dessus de la chambre du jeune homme. Mais ils s'étaient tous trois mis d'accord pour n'en rien dire. Cependant, le gentleman ferait bien de changer de chambre et d'aller se procurer un crucifix chez un bon prêtre comme le père Ivaniki. Tandis que l'homme continuait à radoter, Gilman sentit une boule de panique lui obstruer la gorge. Il se doutait que Joe devait être à moitié saoul et en rentrant la nuit dernière, mais cette mention d'une lumière violette dans la mansarde lui fit l'effet d'une effroyable révélation. Car c'était bien un faible chatoiement de cette sorte qui dansait autour de la vieille femme et de la petite créature velue dans ses rêves plus clairs et plus précis qui précédaient sa plongée dans les abîmes. Et penser qu'un autre ait pu percevoir à l'état de veille cette luminescence onirique dépassait toute forme d'entendement. Et pourtant, où ce pauvre bougre serait-il allé chercher une idée pareille? Se pouvait-il que Gilman ait parlé dans son sommeil lors d'un accès de somnambulisme? Joe lui déclara qu'il n'en était rien. Mais le jeune homme préférait s'en assurer. Frank Elwood pourrait peut-être lui apprendre quelque chose, même s'il n'avait aucune envie de venir lui en parler. La fièvre, les rêves délirants, le somnambulisme, les hallucinations auditives, une mystérieuse attraction exercée sur lui par un point précis du ciel, et à présent le soupçon d'avoir prononcé des phrases démentes en plein sommeil. Il devait sur le champ interrompre ses études, consulter un neurologue et se reprendre en main. En chemin vers sa chambre, il s'arrêta devant la porte d'Elwood, mais constata que son condisciple était absent. À contre-cœur, il reprit son ascension vers la mansarde et s'assit dans le noir. Ses yeux roulaient encore vers le sud-ouest, et il découvrit bientôt qu'il était à l'affût de quelque bruit dans l'inaccessible soupente, et qu'il s'imaginait à moitié qu'une maléfique lumière violette ruisselait dans sa chambre depuis une minuscule fissure dans la pente basse du plafond. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, la lumière violette se déversa sur lui avec une intensité redoublée. Et la vieille sorcière flanquée du petit monstre poilu, plus proche que jamais. Le narguer à grand renfort de couinements inhumains et de gestes démoniaques. Ce fut presque avec soulagement qu'il sombra dans le crépuscule hurlant des abîmes. Malgré l'agrégat de bulles iridescentes et le petit polyèdre kaléidoscopique qui le poursuivait avec un acharnement menaçant. Puis survint le glissement quand de vastes plans convergents à l'apparence visqueuse se profilèrent au-dessus et en dessous de lui. Un glissement qui s'acheva dans un éclair démentiel, une explosion de lumière étrangère où se mêlaient follement d'indescriptibles nuances de jaune, de carmin ou d'indigo. Il gisait, couché sur le flanc, sur une haute terrasse entourée d'une balustrade fantastique, surplombant une jungle infinie de pics aux reliefs insensés et baroques, de plans en équilibre, de dômes, de minarets, de disques horizontaux suspendus à des cimes grandioses et d'innombrables formes plus incroyables encore. certaines en pierre, d'autres en métal, qui scintillaient somptueusement dans l'éclat flamboyant et fiévreux d'un ciel polychrome. Levant les yeux, il vit trois prodigieux disques de flammes, chacun ayant sa teinte propre et évoluant à différentes hauteurs par-dessus la courbe lointaine d'un horizon sans fin de basses montagnes. Derrière lui, les gradins des terrasses supérieures culminaient aussi haut que portait son regard. La cité en contrebas s'étirait à perte de vue, et il espérait qu'il n'en monterait aucun son. Il n'eut aucun mal à se mettre debout, et tenta en vain d'identifier la pierre polie finement marbrée du sol, aux dalles taillées selon des angles bizarres, qui lui parurent moins asymétriques qu'obéissant plutôt à une symétrie surnaturelle dont les lois lui échappaient. À hauteur de poitrine, la balustrade raffinée et superbement ouvragée déployait sur sa rambarde une succession serrée de statuettes aux motifs grotesques et de conception exquise. Tout comme le parapet sur lequel elle se dressait, elle semblait faite d'une sorte de métal rutilant dont on ne pouvait deviner la couleur dans ce chaos de flamboiement. Leur nature, quant à elle, défiait toute analyse. Chacune figurait un être en forme de tonneau crénelé, flanqué de bras fins et horizontaux greffés tels des rayons d'une roue à un anneau central, et prolongés à la base et au sommet d'excroissances ou de bulbes verticaux. Chacune de ces excroissances servait de moyeu à un réseau de cinq longs bras triangulaires, pointus et plats comme ceux d'étoiles de mer. Ces appendices presque horizontaux déviaient légèrement de l'axe du tonneau central. Le point de contact entre la base du bulbe inférieur et la rambarde était très mince, et plusieurs statuettes manquaient probablement tombées. Elles étaient hautes d'une dizaine de centimètres, et leurs bras étoilés leur donnaient un diamètre maximal d'environ 6 centimètres. Quand Gilman se redressa, et sentit sous ses pieds nus la morsure des dalles brûlantes. Il était totalement seul, et son premier réflexe fut de gagner la balustrade pour admirer le spectacle vertigineux de l'infinicité cyclopéenne étendue plus de 600 mètres en contrebas. Tendant l'oreille, il crut entendre un tumulte rythmé de flûtes lointaines, dont les sonorités étouffées couvraient une vaste gamme de tons et enflaient depuis les ruelles étroites. Et il souhaita soudain réussir à discerner les habitants du lieu. L'incroyable vue finit par lui donner le tournis, à tel point qu'il dut se cramponner à la somptueuse balustrade pour ne pas s'écrouler sur les dalles. Il abattit ainsi sa main droite sur l'une des figurines et reprit quelque peu ses esprits à son contact. Le choc fut cependant trop violent pour la délicate ferronnerie étrangère, et la statuette hérissée de pointes cassa net sous son poids. Encore hébété, il garda les doigts serrés sur elle, tout en se rattrapant au métal lisse du garde-fou de l'autre main. Mais soudain son ouïe hypersensible capta un mouvement derrière lui, et il se retourna brusquement pour y faire face. À l'autre bout de la terrasse, 5 silhouettes approchaient en silence, sans pour autant essayer de le surprendre. Parmi elles se trouvaient la sinistre vieille femme et le petit animal poilu aux crocs acérés. Quant aux 3 autres, leur apparence le fit brusquement s'évanouir, car ces créatures d'environ 2,50 mètres de haut étaient les répliques exactes des statuettes pointues de la balustrade, et elles progressaient le long du sol en remuant la rangée inférieure de leurs bras étoilés, telles des pattes d'araignées frémissantes. Gilman s'éveilla dans son lit, le corps ruisselant d'une sueur glacée et une douloureuse sensation de brûlure au visage, aux mains et aux pieds. Il se leva d'un bond, fit sa toilette et s'habilla précipitamment, pris du besoin impérieux de quitter au plus vite cette maison. Pour aller où, il l'ignorait, mais il sentait qu'il lui faudrait à nouveau sacrifier ses cours de la journée. L'attraction bizarre qu'exerçait sur lui ce point dans le ciel entre Hydra et Argonavis s'était atténuée, mais seulement au prix d'une nouvelle compulsion plus puissante encore. Il était désormais poussé vers le nord, de façon irrésistible. Redoutant le pont qui surplombait l'île déserte du Miskatonic, il préféra emprunter celui de Peabody Avenue. et trébucha très souvent, car tous ses sens tendaient vers un point situé dans les hauteurs de ce ciel bleu sans nuages.